Bonjour à toutes et à tous. Je suis Sandy Meunier, je dirige le Centre Égalité, Diversité et Inclusion et je suis ravie de vous accueillir pour cette conférence autour de l'engagement sociétal qui va être introduit par Anne-Claire Pache, directrice de l'engagement sociétal et de la stratégie à l'ESSEC.
Bonjour à toutes et à tous. Je suis absolument ravie d'être avec vous aujourd'hui. Il y a exactement 34 ans, j'étais à votre place, ça fait longtemps, hein. Mais du coup, j'ai le recul pour vous dire aussi comment est-ce qu'on peut utiliser au mieux l'incroyable opportunité que vous avez de rejoindre l'ESSEC. Il y a 34 ans, j'étais dans ce grand amphi à votre place et je me posais, je pense, exactement les mêmes questions que celles que vous devez vous poser aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais faire de cette année? Est-ce que je vais trouver des gens avec qui je vais m'entendre? Est-ce que la vie associative va répondre à mes attentes? Est-ce que les cours vont être aussi passionnants que les cours que j'ai pu avoir en classe prépa? Ça, c'est des questions super légitimes à se poser quand on rentre à l'ESSEC. Mais je me posais aussi une question plus fondamentale que j'espère que vous vous posez également, c'est comment est-ce que je vais faire de mon passage à l'ESSEC une opportunité de me rendre utile dans la vie et de me réaliser, pas uniquement en tant que professionnel, mais me réaliser en tant qu'être humain, en tant que femme, en tant qu'homme, dans une société qui est, alors pour vous aujourd'hui, la société qu'on connaît avec tous les enjeux géopolitiques, politiques français, les enjeux évidemment sociaux, les enjeux environnementaux, les enjeux économiques. Donc comment est-ce que vous allez pouvoir, grâce à l'ESSEC, donner du sens à votre vie ? Et utiliser les compétences incroyables que vous allez développer à l'ESSEC pour faire des choses qui seront impactantes, pas juste faire du fric pour faire du fric, mais produire de la valeur, qu'elle soit économique ou qu'elle soit sociétale. Et la grande chance que vous avez, c'est que vous arrivez à l'ESSEC dans une école qui va à la fois vous donner la formation la meilleure au monde que vous pourrez trouver en matière de sciences de gestion, de business. Vous êtes dans une des toutes meilleures business schools de France, évidemment, mais même du monde. Donc là, vous allez vraiment être équipé. Mais vous arrivez aussi dans une école qui a un ADN. On dit parfois l'ADN humaniste de l'école, on dit une école engagée. En tout cas, une école qui, depuis 1907... L'école ESSEC a été fondée en 1907 par des individus qui se sont dit comment est-ce qu'on met en relation des études d'économie et de gestion avec l'éthique. Et l'ESSEC a été la première école de commerce à enseigner l'éthique des affaires. Elle a ensuite été la première école de commerce à développer des enseignements sur l'innovation sociale, l'entrepreneuriat social. Elle a été la première école de commerce à s'engager très fortement sur toutes les thématiques liées à l'égalité des chances. Et elle a inspiré quasiment la totalité des écoles de commerce, d'ingénieurs et de l'enseignement supérieur français à développer ces modalités qu'on appelle aujourd'hui les cordées de la réussite. Comment est-ce que des grandes écoles peuvent travailler avec des lycées de zones d'éducation prioritaire pour accompagner tous les élèves vers la réussite éducative. Bref, vous arrivez dans une école qui sait combiner excellence académique et engagement. Et donc, je voudrais vous inviter, vous encourager à vous poser la question aujourd'hui, et moi, à l'ESSEC, pendant ma scolarité, quelle va être ma forme d'engagement? Comment est-ce que je vais mettre mon talent? Ça y est, votre talent, il a été validé, vous avez réussi le concours, votre talent académique, il n'a aucun doute. Maintenant, comment est-ce que vous transformez une excellence académique en excellence humaine. Et ça, c'est un autre exercice, et l'ESSEC vous offre de multiples opportunités pour le faire. Vous allez pouvoir le faire dans la vie associative, parce qu'il y a parmi les associations à l'ESSEC, plein d'associations qui vous donnent l'opportunité de faire des missions humanitaires, de vous engager pour l'écologie, de réfléchir à comment s'impliquer dans le territoire de Cergy, c'est super important. Vous allez pouvoir le faire au travers d'engagements offerts par l'école. Une grande école, pourquoi pas moi, recherche chaque année des tuteurs qui vont, étudiants de l'ESSEC, accompagner pendant un an des élèves issus de zones d'éducation prioritaire pour les aider à se projeter vers des études supérieures ambitieuses. Ça, c'est une autre super manière de pouvoir vous engager. Vous allez pouvoir rejoindre un certain nombre de chaires dans le champ académique qui vont là aussi vous donner la possibilité de vous réaliser en tant que femme et homme avec une expertise professionnelle sur la transition écologique, sur l'économie circulaire, sur l'innovation sociale, sur les enjeux de leadership et diversité. Donc, dans la scolarité, vous allez aussi pouvoir trouver des occasions de utiliser la plateforme ESSEC pour faire de vous des citoyens, des professionnels engagés. Vous avez aussi tout le champ de l'entrepreneuriat. On a à l'école un écosystème sur l'entrepreneuriat extrêmement développé et qui vous permet là aussi de dire ben non seulement j'ai envie d'apprendre sur tous les enjeux sociétaux, mais j'ai envie de mettre mon talent au service de projets entrepreneuriaux, d'inventer les réponses aux grandes problématiques. L'écosystème entrepreneurial, au travers de ESSEC Venture ou au travers de l'incubateur Entropia, vous permettent aussi de faire ça, mettre vos talents entrepreneuriaux au service de l'engagement. Donc, ce sont quelques modalités là que je vous ai citées. Utilisez vraiment l'écosystème des personnes que vous allez rencontrer aujourd'hui. Vous avez ici le Centre Égalité des Chances, Égalité, Diversité, Inclusion, le CEDI. Il y a plus largement au sein de l'école ESSEC un institut Together for Sustainability and Social Change qui abrite à la fois le Centre Égalité, Diversité, Inclusion, qui abrite le Centre Innovation sociale et écologique, et qui sont des endroits où vous avez des experts, des gens qui travaillent, qui collaborent avec des entreprises et qui peuvent vous aider à connecter avec tout cet écosystème de l'impact. Et plus largement, l'ESSEC, avec son programme, enfin son engagement stratégique avec l'Institut Together, a pris des engagements très forts en tant qu'école elle-même pour être exemplaire, à la fois en matière d'ouverture sociale, mais aussi en matière de respect des principes écologiques et de réduction de notre empreinte carbone, à travailler aussi avec les directeurs de programme pour intégrer du contenu pertinent et utile pour vous sur ces sujets-là. Donc, pour conclure, et je vais m'arrêter là, vous avez vraiment la chance d'être dans une école où vous allez combiner l'excellence académique avec l'excellence humaine et l'excellence de l'engagement. Tirez-en profit un maximum et utilisez ces 3 années pour vous dire comment est-ce que je mets mon talent au service de la société, de la paix et du développement social et économique dans le monde.
Un grand merci, Anne-Claire. Pour cette conférence, on avait à cœur de vous montrer des parcours ESSEC, peut-être un peu différents de ceux que vous avez spontanément en tête. Donc j'aimerais appeler sur scène 4 alumni, Raphaël Lalot, Sébastien Goy, Maxime Perfit et Gaëlle Devaucou.
Bonjour à toutes et tous, ravie d'être là et merci pour l'invitation. Raphaël, moi je travaille chez Ubisoft qui est une entreprise de jeux vidéo et ça va faire 7 ans que j'y suis dans des fonctions de diversité et d'inclusion. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que je fais partie d'une équipe pluridisciplinaire chez Ubisoft qui adresse ces sujets à la fois du point de vue du contenu des jeux, donc des histoires qu'on raconte, mais aussi le pan RH et également l'accessibilité technique des jeux. Et mon quotidien, c'est d'accompagner des équipes, alors plus spécifiquement pour moi, sur le périmètre Europe, Moyen-Orient et Asie, sur toutes les questions qui peuvent se poser sur des sujets de diversité et d'inclusion. Voilà.
Merci beaucoup, sachant qu'avant ça, tu avais déjà travaillé sur ces sujets-là.
Absolument, j'ai eu la chance, mais on en parlera un peu plus tard via l'ESSEC, de faire des expériences extrêmement variées dans différentes structures. Et donc avant Ubisoft, j'étais passée par de l'ONG, par du mécénat dans le privé et également différentes expériences de conseil pour des structures sociales.
Merci beaucoup. Maxime ?
J'enchaîne. Bonjour à tous. Alors donc moi je m'appelle Maxime Perfit et je travaille dans une entreprise qui s'appelle Logéocène, qui est une entreprise sociale pour l'habitat. Et on connaît les entreprises sociales pour l'habitat avec un nom plus banal, c'est un bailleur social, un bailleur HLM. Notre mission c'est de donner un logement à des gens qui en ont le droit, parce que le logement c'est un droit, une nécessité, mais aussi une expérience qu'on essaye de faire la plus épanouissante possible. Donc c'est un secteur que j'aurais jamais imaginé le rejoindre, mais jamais, quand je suis entré à l'ESSEC. Pourtant, c'est un des secteurs avec le plus d'impact, parce qu'on loge un Français sur six quoi, dans le parc de l'habitat social. On est dans un secteur de l'immobilier avec un énorme impact environnemental. On coule du béton pour construire des logements. Donc il a permis de réunir plein de dimensions de l'impact, et j'y suis arrivé par... j'y reviendrai dans mon parcours, mais par le hasard de ce que l'ESSEC m'a amené, de ce que mes stages m'ont amené, de ce que ensuite... le conseil, parce que j'ai fait du conseil, comme beaucoup d'étudiants d'ESSEC, j'ai fait 7-8 ans de conseil, et dans ce conseil-là, j'ai réussi à trouver une voie dans le conseil au secteur social avant de rejoindre un bailleur social. Voilà.
Merci Maxime. Gaëlle, est-ce que tu veux prendre...
Oui, alors bonjour à tous, Gaëlle de Voucou. Donc moi je suis diplômée de l'ESSEC, effectivement, sortie en 2009. Et moi j'ai travaillé tout de suite dans le secteur de la solidarité, donc d'abord en ONG de terrain, en Inde et au Liban, ensuite plus proche de nous, donc en Seine-Saint-Denis, sur le financement de structures sociales ou écologiques. Et après ça, j'ai eu un parcours plutôt dans les métiers du fundraising, que vous connaissez peut-être, donc tout ce qui est financement de la solidarité, et tout ça en ONG internationale chez Action contre la faim et au HCR, qui est l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Et je travaille depuis un an à la Fondation ESSEC, où je collecte des fonds auprès des alumni, donc alumni que vous allez devenir un jour, pour notamment financer différents programmes, et en particulier les bourses sociales de l'ESSEC, que vous connaissez peut-être.
Merci. Sébastien.
Moi, j'ai diplômé de l'ESSEC en 2012, et ensuite j'ai travaillé pendant 5 ans, enfin j'ai fait mon stage, puis mon alternance, on vient de payer l'école à la Croix-Rouge française, où je bossais auprès de la Direction Générale sur l'innovation et des partenariats pour accompagner les bénévoles et salariés à inventer de nouveaux projets pour répondre aux besoins de la société. Ensuite, j'ai fait un peu d'entrepreneuriat au sein de Ciel Bleu, avec un S, on nous confond souvent avec EDF, mais c'est S-I-E-L Bleu, qui est une association qui fait de l'activité physique pour des personnes âgées, handicapées, atteintes de maladies chroniques. Et au sein de Ciel Bleu, j'ai créé des séjours thérapeutiques pour des gens qui avaient un cancer. Donc pendant 5 jours, après un cancer, parfois il y a une espèce de gros vide. Pendant 5 jours, on part dans des lieux en pleine nature pour faire de l'activité physique, du yoga, bien manger, du théâtre, du chant, et avec des personnes qui ont vécu la même chose, pouvoir repartir avec une grosse patate dans la vie d'après. Et donc ensuite, on a créé ces séjours-là pour des gens qui avaient un AVC, un maladie de Parkinson, et pour des ados et adolescents en soins palliatifs. J'ai fait ça pendant 8 ans, parce qu'il y avait besoin de me prouver que je pouvais mettre les mains dans le cambouis, créer un vrai truc pour des vrais gens. Et donc j'ai beaucoup utilisé des choses que j'ai appris à l'ESSEC à ce moment-là. Et ensuite, j'ai fait une petite pause. Et il y a un truc qui me titillait, c'est l'engagement en politique. Donc je me suis engagé en politique pour les européennes. Donc j'ai parti de l'équipe de campagne des écologistes pour les européennes, avec le score qu'on connaît, qui était pourri. Et ensuite, notre président a dissous l'Assemblée. Et du coup, je me suis engagé dans les législatives. Et je vais dans le 17e à l'époque pour la députée. Là, on a gagné les élections. Et du coup, pendant un temps, j'ai été aussi collaborateur parlementaire au cœur, donc juste après la dissolution, donc dans le gros bazar ambiant. Et donc je milite pour dire que non, il y a des gens qui bossent, il y a des gens qui ont des convictions, il y a des gens qui ont des colonnes vertébrales à l'Assemblée, et que c'est pas forcément que ce qu'on voit dans l'hémicycle, et que je pense qu'il faut pas perdre espoir là-dedans. Donc en y étant allé un peu, je milite là-dessus. Et aujourd'hui, juste pour finir, je suis en jachère, comme on dit poétiquement, donc je ne fais rien, si ce n'est... Donc je suis en quête de ce que je vais faire après, soit de l'entrepreneuriat, soit une nouvelle aventure dans l'économie sociale et solidaire, soit peut-être reprendre la politique, parce que c'est un peu comme un virus, la politique. Et à côté de ça, je suis enseignant au sein du Bachelor Act, qui a été lancé par l'ESSEC et l'Université de Cergy. Et je suis administrateur d'une association qui s'appelle Lit Up et qui accompagne les décrocheurs scolaires. Donc c'est aussi un des messages, c'est qu'on peut s'engager aussi à côté en étant administrateur bénévole dans des associations. Et peut-être que ça sera une des voies que vous sélectionnerez.
Et merci Sébastien, je vais faire le lien avec ce que tu viens de dire, c'est-à-dire tu réfléchis à voilà, ta voix, c'est des questions qui vous traversent, j'imagine, aujourd'hui en étant arrivé à l'ESSEC depuis une quinzaine de jours, mais qui peuvent traverser tout au long de la vie. Est-ce que, comme le disait Anne-Claire, quand vous êtes arrivé, comment vous vous projetiez dans la vie professionnelle et quel type d'étudiante vous étiez? Qui veut y aller?
J'y vais. Quand je suis arrivé, moi je viens de Marseille, je suis arrivé en 2011 et je ne me projetais pas du tout. Vraiment pas du tout. C'est-à-dire que déjà, j'avais fait une prépa parce qu'on m'avait dit que j'étais bon élève. J'ai plutôt réussi ma prépa en rentrant à l'ESSEC, mais je n'avais pas le moindre idée de type de métier sur lequel ça allait me... Je suis fils de prof, donc je n'avais vraiment pas le moindre idée sur le type de métier que ça allait me faire. Donc quand j'étais à votre place, je pense que je devais écouter en me disant « Mais de quoi on est en train de me parler ?» Pour être très sincère sur... Il y a 10 ans, et après, enfin, je ne sais pas si tu veux que je rentre maintenant dans mon parcours, mais après, c'est ça tout le côté très, très, très positif de la scolarité à ESSEC, c'est que si on est curieux sur les chaires qui existent, moi j'ai fait une des chaires qui s'appelle la chaire d'économie urbaine, si on est curieux sur les chaires qui existent, sur les spécialisations, si on s'ouvre à des programmes comme une grande école, pourquoi pas moi, ou à des masters entre l'ESSEC et j'ai fait une licence de droit en parallèle. Vraiment, si on peut complètement se construire un parcours que je trouve à la fois à la carte, et enfin, je le dis avec mes mots, c'est à la carte, tout en ayant quand même avec tous vos cours fondamentaux des bases solides pour ensuite arriver et participer à la direction d'une entreprise. Donc voilà, je ne savais pas ce que je voulais faire, j'étais perdu, mais après, il faut se frayer sa voie, mais avec un conseil, c'est d'être très très curieux sur toutes les possibilités qu'offre l'ESSEC.
Gaëlle, juste, j'ai envie de rebondir, parce que toi, il me semble que c'est l'engagement associatif qui a marqué ton parcours à l'ESSEC.
Oui, exactement. Donc moi, j'arrivais d'une CAN BL, donc j'avoue que j'étais plutôt versée sociologie... économie, mais voilà, toutes les théories économiques, et je suis arrivée, comme peut-être certains d'entre vous, il y a eu effectivement un petit moment de panique, donc moi, la curiosité, elle s'est exercée surtout au niveau des associations, donc j'ai participé à Musical, Jamesec et EPH, qui est l'association humanitaire pour le Burkina Faso, donc c'était des aventures collectives surtout, hein, vraiment des groupes de personnes qui sont restées des amis aujourd'hui. Voilà, c'était l'idée de trouver les moyens de réaliser notre mission, donc voilà, de la collecte de fonds en vendant des gâteaux, en vendant des billets, en allant faire des ensachages, enfin c'est vraiment le béaba du métier que je pratique aujourd'hui, donc vraiment très voilà, enfin moi c'était ça mon engagement, et effectivement se projeter au-delà à ce moment-là, c'était pas possible. Donc ça s'est construit un peu après avec les programmes dont a parlé Maxime, certaines chaires, la chaire innovation sociale, le cursus droit, et puis bien sûr les rencontres aussi d'intervenants ou de professionnels que j'ai pu faire à l'ESSEC.
Merci. Sébastien et Raphaël, peut-être qu'est-ce qui a fait déclic en fait, qui a fait que vous êtes orientés finalement assez rapidement après la sortie de l'ESSEC vers des métiers tournés, je dirais, vers l'intérêt général, la chose publique.
De mon côté, effectivement, le déclic. Alors, moi, je suis arrivée à l'ESSEC, effectivement, pareil, avec un petit sentiment de panique puisque j'ai été élève littéraire également en prépa classique. Donc, moi, ça faisait approximativement 3 ans que je passais ma vie dans des bouquins. Et je me souviens avoir paniqué, effectivement, pareil, lors des premières présentations où il y avait une personne en marketing dans un grand groupe de cosmétiques qui était venue faire une présentation, quelqu'un en audit et conseil, et je ne comprenais absolument rien de ce qu'il me racontait. Et ce qui a été le déclic, c'est que pour le coup, alors moi, je voulais rentrer à l'ESSEC pour la chaire entrepreneuriat social, donc innovation sociale. Et donc, j'ai eu la chance de l'intégrer très rapidement après l'année dans laquelle vous êtes actuellement pré-master. À l'époque, c'était la période initiale. Et c'est aussi ce qui était très chouette avec l'ESSEC et qui permettait d'affiner petit à petit et de provoquer le déclic. C'est cette sensation qu'on pouvait toucher à énormément de choses et effectivement cette scolarité à la carte. Moi, à titre personnel, parce que j'avais besoin d'un peu de structure, parce que sinon je me prenais la tête tous les 3 mois sur ce que j'allais faire ensuite, j'ai fait à chaque fois 6 mois de cours et 6 mois de stage. Et c'est vraiment les stages qui ont permis d'affiner petit à petit ce qui me faisait vibrer, mais aussi les choses qui, pour le coup, étaient des choses que je ne voulais plus voir ensuite dans ma vie professionnelle. Et le déclic, je dirais, ça va être quelque chose que tu as aussi évoqué, Gaëlle, c'est les rencontres avec beaucoup d'intervenants, le réseau aussi au sein sein de l'ESSEC avec beaucoup d'amis, beaucoup d'élèves dans différents parcours qui avaient pu échanger sur ce qu'ils avaient pu faire et de vraiment prendre, je veux dire, toutes les expériences avec beaucoup de curiosité, mais comme une opportunité de vraiment saisir, vraiment se rester aligné avec ce qu'on a envie de faire. Et ça, ça a été l'un des grands enseignements pour moi à l'ESSEC, c'est qu'effectivement, je me suis vraiment pris la tête tous les 3 mois sur ce que j'allais faire ensuite, puisque toutes les cartes pouvaient être battues, mais ça permet vraiment de se poser les bonnes questions sur qu'est-ce qu'on a envie de faire ensuite et pourquoi on le fait. Et je me souviendrai toujours de ce retour d'une recruteuse dans une entreprise que j'avais intégrée, c'était mon 3e stage, qui avait regardé mon CV et qui me dit « c'est vraiment sympa les CV ESSEC ». Parce qu'il y a vraiment plein de choses très différentes et il y a vraiment possibilité de faire des choses qui sortent un peu du cadre d'une école de commerce classique.
Sébastien, est-ce que tu veux partager ?
Moi, le déclic, il était assez tôt, c'est que j'avais une grande question qui me travaille depuis que je suis ado, c'était pourquoi est-ce que... Moi, je suis comme beaucoup d'enfants dans la salle, je pense, et de gens dans la salle, je suis issu d'une bourgeoisie qui tournait bien, mes deux parents étaient cadres, et j'avais un espèce de truc de... J'ai rien mérité, pourquoi je suis dans la bonne famille, dans le bon pays, au bon moment, et qu'est-ce que je fais de ça dans un monde où tout est en train de s'effondrer parce que des règlements climatiques, parce que quand même, globalement, tout va pas très bien, quoi. Donc, un étudiant très heureux et pas du tout dépressif. Et du coup, j'ai toujours cette question-là de pourquoi j'ai reçu tout ça alors que je ne l'ai pas mérité. Pour moi, il y a vraiment ça, quoi. Il y a quelques personnes dans la salle qui l'ont mérité sans doute parce qu'elles viennent peut-être d'un milieu un peu différent ou qu'elles viennent d'un endroit géographique un peu différent, mais pour beaucoup, j'étais frappé par des gens qui estimaient qu'ils avaient mérité ce qu'ils avaient, alors qu'en fait, certes, on a travaillé, mais en fait, on est quand même surtout né au bon endroit, au bon moment, quoi. Et donc, j'avais cette question-là en arrivant à l'ESSEC. La première année, c'était assez dur parce que ça a renforcé ce truc-là, de genre, mais qu'est-ce que je fous dans cet endroit, je ne me reconnais pas. Et ensuite, le déclic, c'est de se dire, en fait, ici, parce que quand j'étais gamin, je voulais être soit psy, soit clown à l'hôpital, soit je savais pas trop, donc mes parents ont plutôt poussé vers l'école de commerce, j'étais bon élève. Et donc, en arrivant là, le déclic, ça a été de se dire, en fait, en arrivant ici, on rentre dans la matrice, et la chaire innovation sociale, ça a été vraiment ça, de se dire, si le monde tourne avec les codes de l'économie, alors si je le comprends, on peut tordre la cuillère comme dans Neo, dans Matrix, et je pense que c'est ça qu'on apprend ici en fait, et que pour moi le déclic c'est la chaire innovation sociale qui dit en fait il y a plein de choses à prendre ici et prends tout ce que tu veux, donc j'ai fait plein de cours possibles, inimaginables, de logistique, de plein de trucs différents que je pouvais prendre en apprenant, et après de me dire comment je mets ça au service de quand même essayer de transformer le monde dans une direction qui me semble plus juste et plus souhaitable, quoi. Et donc je pense que je suis arrivé avec cette question-là et avec beaucoup d'a priori en première année, et comme tu l'as décrit, on est un peu paumé, et moi clairement j'ai fait plein d'assauts pour essayer de m'en sortir, et ensuite on trouve sa lumière et on construit son parcours à la carte, et puis et c'est chouette.
Et merci, ça me permet de faire le lien. Parfois, je parlais des représentations qu'on peut avoir, des carrières un peu toutes tracées quand on sort d'une école de commerce. Donc, on ne fait pas forcément le lien entre un parcours ici et vos métiers aujourd'hui. Qu'est-ce que vous mobilisez finalement de l'ESSEC ? À quel point ça fait sens, en fait, finalement, un parcours, même si vous l'avez un peu dit, mais à quel point finalement c'est très aligné de faire l'ESSEC et d'aller dans des jobs comme ceux que vous occupez aujourd'hui ?
Je dirais ce que je retire principalement, enfin il y a plein de choses que je retire, mais ce que je retire principalement, c'est que l'ESSEC donne une forme de confiance sur un peu ce que tu disais, Seb, c'est qu'on peut tenter plein de choses différentes et on n'est pas obligé de se conformer à quoi ressemble un bon parcours. Bon, de toute façon, si on a fait une prépa, on a déjà mis plusieurs jalons en place pour représenter le bon parcours en France, mais l'ESSEC donne cette liberté, si on la saisit et qu'on est un peu curieux, curieuse, et qu'on regarde ce qu'il y a au-delà du cursus fondamental, l'ESSEC donne cette confiance de se dire « je peux me définir par ce que je fais ». Et je peux créer une opportunité. Et moi, je l'ai vraiment vu, en tout cas, et j'ai senti cette confiance et la force aussi du réseau que l'ESSEC peut permettre de créer, et la diversité de ce qu'on apprend dans mon parcours, puisque je me suis rendu compte que j'étais peut-être pas une entrepreneuse dans l'âme, mais qu'en revanche, ce que l'ESSEC m'avait donné, c'était cette capacité à, lorsque j'arrive dans un endroit, voir potentiellement, grâce à des cours, grâce à un certain esprit critique qu'on nous enseigne, là où il y avait des trous dans la raquette et où je pouvais potentiellement proposer quelque chose de nouveau au sein de l'entreprise, ou un sujet qui me paraissait très fort parce que je l'avais vu à l'ESSEC et que je ne voyais pas présent dans cette entreprise. Et sur les sujets que je traite aujourd'hui de diversité et d'inclusion, c'est exactement ce qui s'est passé. Je suis arrivée dans une entreprise où ces sujets n'étaient pas présents et ça me paraissait hallucinant qu'ils ne le soient pas, étant donné qu'on créait un produit culturel qui touchait des millions de gens, donc avec une forme de responsabilité par rapport aux histoires qu'on raconte. Et en fait, je pense que l'ESSEC m'avait donné cette confiance de me dire « je vais sortir du cadre et aller proposer un projet pour dire, bah, moi, si vous me faites confiance, je monte ce truc-là. Et moi, c'est vraiment cette force-là, je dirais, de l'ESSEC et de pouvoir aussi échanger avec le réseau concret pour se donner cette confiance.
Merci.
Oui, alors moi, sur cette question, je trouve que... Enfin, je ne l'ai pas vu tout de suite, hein, la cohérence entre voilà, le métier et ce que j'avais appris à l'ESSEC, mais en fait, c'est venu assez rapidement. Il y a des cours un peu fondamentaux qui m'ont marqué et sur lesquels je suis allée rechercher ensuite les archives. Tout ce qui est finance d'entreprise, en fait, dans la collecte de fonds, que ce soit dans le secteur humanitaire ou même ailleurs, c'est hyper clé. La philanthropie, comprendre ce que c'est qu'un département RSE, enfin, c'est des choses très basiques que je vous dis là, mais moi, ça m'a vraiment permis de comprendre un peu mieux ce monde-là. J'ai travaillé chez France Active, donc c'est de la finance à impact. Voilà, comprendre vraiment, analyser un bilan, un compte de résultat, si voilà, j'avais pas fait ça à l'ESSEC. Alors, clairement, c'était pas ma passion à l'ESSEC. Mais quand j'ai pu m'y replonger et que j'ai vu le sens que ça prenait, je me suis dit, mais en fait, c'est génial d'avoir fait cette école parce que, clairement, je pense que d'autres écoles ont d'autres basiques, mais pas ceux-là. Et donc, du coup, c'était vraiment hyper utile. Voilà. Enfin, c'était juste pour vous donner un peu d'appétence. Et tous ces cours, vous les retrouvez notamment au sein de la chaire Innovation sociale, mais pas que. Donc, je vous invite vraiment à, encore une fois, être curieux et vous intéresser au cursus que vous allez suivre.
Maxime et Sébastien, vous voulez compléter ?
Ça va dans le même sens, mais enfin, fou qu'il y a une marque aussi. Il y a marque ESSEC où, en fait, surtout dans le secteur associatif, il y a une présomption de l'ensemble de la société d'incompétence, ce qui n'est pas le cas parce qu'en fait, il y a des gens qui arrivent à créer des activités dans un secteur contraint où on manque de pognon. Donc, en fait, ils ont des modèles économiques qui sont très inventifs, mais il y a une présomption d'incompétence. Et le fait d'être un ESSEC dans cet univers-là, ça donne une carte. Il y a vu plein de gens qui changeaient de regard sur ce qu'on est nous. Et donc, c'est plus ou moins justifié, mais en tout cas, je trouve que ça aide dans plein de mondes et ça aide à naviguer dans plein de mondes différents. Et du coup, ça, c'est un des trucs précieux, c'est que du coup, et vous voyez, moi, je pense que c'est ça la plus grande richesse de ce truc, c'est qu'on peut à la fois travailler avec des entreprises, en même temps travailler avec des gens qui ont un cancer quand c'est mon cas, en même temps dans le secteur associatif, et cette capacité à naviguer dans les mondes, je pense que de plus en plus elle est clé et que c'est vers ça qu'il faut aller, quoi. Et après, je pense qu'on l'a dit, je pense que l'ESSEC c'est un réseau et des potes et que c'est super important et que dans plein de moments dans la vie, on a créé un fonds d'investissement avec mon pote qui faisait de la finance, pas le même choix que moi, mais du coup pour le remettre au service de projets qu'on faisait à ciel bleu. Quand j'avais des soucis, on appelle les gens de la chaire, c'est un réseau qui est ultra structuré, de la chaire innovation sociale pour faire des choses. Pour des financements, il y a Fanny Picard qui a structuré la finance à impact en France, qui est une ESSEC aussi, qui a créé Alter Equity. Donc en fait, il y a tout ce réseau-là. Et la campagne politique dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est une ESSEC qui était directrice de campagne de la candidate. Donc en fait, dans le parcours, je trouve que c'est vraiment ça. Les liens que vous tissez ici, ils vont vous suivre, y compris avec des gens qui ne font pas les mêmes choix de parcours que vous. Et je pense que c'est super important. Moi, je me suis beaucoup servi de ça aussi, quoi. En fait, comme on est dans plein d'endroits différents et il y a plein de voies possibles, ben, on peut créer des ponts entre ces voies-là. Et les ESSEC sont des infiltrés qui permettent de créer des ponts entre ces voies-là. Enfin, je pense que je le pense comme ça. Voilà, j'ai dit.
Maxime.
Tout a été dit. Aujourd'hui, moi, je suis directeur dans une entreprise sociale de l'habitat. Une entreprise sociale, c'est quand même une entreprise. Donc ça veut dire que, et là, je rejoins complètement Gaël, ça veut dire que si j'avais pas, et je pensais pas le dire, hein, mais si j'avais pas bien un peu écouté en finance, en comptabilité et dans ces cours fondamentaux, j'aurais beaucoup de mal à comprendre comment bien investir les 10 millions d'euros qu'on doit investir pour construire du parc social chaque année. Donc ça, enfin, je pensais pas le dire, hein, parce que sur le coup, tu t'en rends pas. Enfin, je te rejoins complètement. Tu t'en rends pas forcément compte, mais le socle que te donne l'ESSEC me paraît important. Et après, ouais, enfin, tout ce que tu dis sur moi, mon parcours, je l'ai construit en lien avec d'autres parcours qui ont fait écho au mien de la chaire dans laquelle j'étais. Et je pense que cette alliance des deux, c'est un truc qui, enfin, avec 10 ans de recul, c'est ce qui a fait la force de l'ESSEC et ce qui fait la force du parcours professionnel dans lequel on est. C'est qu'on a eu des fondamentaux pour comprendre et diriger des entreprises, mais on a aussi un réseau, des liens de solidarité avec les gens de notre promotion. La somme des deux, ça peut permettre d'avoir des beaux parcours dans l'engagement, quoi, en gros.
Et Maxime, j'ai profité du fait que tu avais la parole pour juste poser la question, comment on passe du conseil à l'habitat social ?
C'est une bonne question. Donc moi, j'étais très scolaire, donc après avoir fait ma prépa, je m'étais dit, je rentre à l'ESSEC. J'avais commencé à voir des voies de passage avec la chaire, mais quand même, ça me rattrapait. Et je me disais, bon, je vais faire du conseil. Si 40% de la promotion le fait, c'est que ça doit être plutôt safe. Donc j'y vais, je fais du conseil. Mais j'avais quand même ouvert une petite voie qui m'a dit, tiens, je vais faire du conseil, mais le monde du conseil, c'est très large. Et donc, je m'étais dit, je vais faire du conseil dans le secteur public. C'était ma connotation. Donc, conseil pour des collectivités. Je travaillais beaucoup pour des élus, pour des maires, pour des départements, pour des régions. Et de là, j'ai découvert une politique publique, celle du logement. Et se dire que... Enfin, la politique publique du logement, c'est-à-dire qu'on on loge un Français sur six, qu'on donne du pouvoir d'achat, puisque les loyers dans le secteur sont deux fois moins chers. Je me suis dit, mais ça me parle. Enfin, franchement, j'avais bossé pour la ville de Saint-Denis en tant que consultant, et en me disant, l'éducation me parle beaucoup, et l'éducation et le logement, c'est les deux... Enfin, il y a plein de possibilités d'engagement, mais c'est les deux politiques publiques qui m'ont le plus parlé, et j'ai rejoint celle du logement. Donc ensuite, j'ai fait du conseil pour l'habitat social, et là, il y a un truc qui arrive, qui est magique chez un consultant, c'est qu'il va travailler chez un client, et ça matche bien avec le client, et le client lui dit, bon, je vais arrêter de te payer en tant que consultant, viens et rejoins-nous en tant que directeur chez nous. Quoi. Voilà.
Super, merci. Qu'est-ce que ça vous apporte en fait aujourd'hui finalement d'avoir fait ce choix-là tout de suite en sortant ou après de l'intérêt général, de la chose publique, de l'engagement sociétal? Qu'est-ce que ça vous apporte d'avoir fait ce choix et de l'avoir mis au cœur de votre vie professionnelle?
Qui veut y aller? Bon, alors je vais commencer. Pour moi, c'est en fait un besoin de cohérence, donc entre des valeurs qui étaient assez fortes pour moi. Voilà, le collectif, le fait d'avoir une contribution à la société, le fait de me dire je suis utile, je contribue à quelque chose, je trouve les moyens pour, et de le faire au quotidien, en fait, ça donne tout de suite un petit alignement sympathique psychologiquement. Après, c'est vraiment des choses qu'on peut trouver, je pense, en dehors de son métier aussi, et on peut s'aligner différemment, mais en tout cas pour moi, voilà, c'était vraiment un besoin de cohérence, et c'est ça que je ressens aujourd'hui.
Bah, pareil que Gaël, moi je pense que je peux pas faire autrement, et je pense que c'est à ça que voilà, je pouvais pas faire autrement. Et après, ce que ça m'apporte, ça m'apporte plein de questions au quotidien. Je trouve il y a un truc de, surtout dans le contexte actuel où en fait il y a un peu l'impression que bon, ça va pas vraiment dans le sens dans lequel on veut que ça aille. Donc c'est parfois compliqué de se dire genre où est-ce que je mets mon énergie pour essayer d'avoir de l'impact et pour peser un peu dans une direction qui serait un peu meilleure, mais sachant qu'on est un peu en train de perdre. Donc je suis assez, c'est pas simple quoi dans ce contexte-là. Et après, je trouve que c'est ce que je disais juste avant, c'est surtout que moi ça m'apporte énormément de rencontres de plein de gens différents en fait entre des sans-papiers quand j'étais collaborateur de la députée, entre des personnes qui ont eu un cancer, entre des ados qui sont en soins palliatifs, entre des gens très haut placés en politique, vivre la négociation du NFP au cœur des petits hôtels, le siège des écolos, de aller chercher des fonds, bosser avec des fonds d'investissement et essayer de créer des choses pour mettre des petits tuyaux pour prendre un peu d'argent là-dedans et le remettre au service de choses qui font peut-être un tout petit peu plus sens. Je trouve que ça, c'est ultra riche en fait d'avoir une vie où on peut rencontrer autant de personnes différentes, de plein de lieux de vie différents, de plein d'endroits différents. Et je trouve que c'est, enfin, dans la vie, si on est, on vit, on meurt, et qu'est-ce qu'on fait entre les deux, d'avoir la chance de pouvoir rencontrer plein de gens différents, je trouve que c'est riche en fait, et que dans la même journée, bah, effectivement, on soit en train de faire un séjour un peu en mode gentil organisateur au cœur du Loir-et-Cher, et que le lendemain, on soit en train d'essayer d'aller chercher des fonds auprès de la Fondation Michelin. Je trouve que ça, c'est chouette en fait, c'est ultra divers, et puis c'est bien, puis les liens, c'est chouette.
Je vais rebondir sur beaucoup de choses que Gaël et Sébastien ont déjà mentionnées. Effectivement, ce que tu disais, Gaël, alignement et cohérence. Pareil, pour moi, la question, enfin, ça s'imposait un peu à moi, et c'est une question que j'ai toujours aujourd'hui et que je pense ne me quittera jamais. C'est de toujours se poser la question de suis-je au meilleur endroit pour avoir l'impact le plus positif qui soit. Donc, c'est une question qui, moi, en tout cas, m'anime au quotidien et aide à prendre de la distance et à toujours se demander si ce qu'on fait reste toujours aligné. Est-ce qu'on est à l'endroit où on a envie d'être, essentiellement? Donc, ça apporte beaucoup de questions, pour reprendre ce que disait Seb, puisque effectivement, c'est pas de tout repos de se poser ces questions-là en permanence, mais je pense que, en tout cas, d'avoir le sentiment de me lever le matin et de savoir pourquoi je vais au travail et pourquoi je suis à l'endroit où je suis et pourquoi je fais les choses, ça reste une colonne vertébrale très importante. Et après, Sébastien, tu mentionnais la variété de perspectives. Je trouve que effectivement, l'engagement peut prendre plein de formes différentes. Et même en conseil, même en finance, dans n'importe quelle entreprise, on peut aussi avoir un engagement. Et moi, à titre personnel, là, sur les derniers mois, ce qui m'apporte beaucoup, c'est que je fais également du mentorat pour des jeunes qui viennent de parcours différents du mien. Et moi, je me nourris aussi de ces perspectives et de cette remise en question pour pouvoir accompagner et effectivement me mettre aussi à la place d'autres personnes. Donc ça aide à rester en prise avec ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui, de ne pas rester enfermé dans sa tour d'ivoire et de pouvoir continuer de se poser des questions et avoir un parcours qui n'est peut-être pas lisse, mais qui en tout cas fait du sens et donc on est en mesure de le raconter. Et je pense que c'est aussi ce qui fait une force lorsqu'on doit se poser la question d'une nouvelle expérience ou lorsqu'on est en face de recruteurs ou de recruteuses, de pouvoir expliquer pourquoi on a fait tel ou tel choix.
Pas mieux, non, pas mieux. Non, mais moi, j'ai toujours adoré dormir et j'ai toujours beaucoup de mal à me lever. Et là, le bailleur social sur lequel je travaille, il est au Havre. Donc tous les matins, je prends le train à 5h30 pour aller au Havre. Je vous le fais très. Enfin, je me lève à 5h30, je prends le train à 6h30 pour aller au Havre. Je vous le fais très vite. Mais tain, je sais que je me lève pour une entreprise dont l'objectif c'est de loger des personnes qui en ont besoin, de leur donner la meilleure expérience d'habiter et de faire que les habitants du bailleur soient heureux. Et franchement, ça a été le meilleur remède sur mes pannes de réveil. Et c'est assez personnel et presque un peu égoïste comme réponse, c'est-à-dire pourquoi je le fais, mais je le fais pour moi parce que c'est ce qui fait me lever, ce qui crée de la fierté. Donc c'est assez personnel comme réponse, c'est assez individuel quoi, tu vois, mais c'est ma réponse, voilà.
On entend parfois que l'engagement finalement c'est un truc de privilégié. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je pense pas. Enfin, il y a un peu un truc un peu étonnant dans notre société. Moi, je trouve que cette question-là, c'est un truc de privilégié. Et pour autant, je crois que les gens qui font les choses qui ont le plus de sens dans notre société sont les gens qui sont les moins valorisés ou les moins rémunérés. On l'a beaucoup vu pendant le Covid avec les gens, les infirmières, avec les gens, les éboueurs, avec tous ces gens-là, en fait, qui sont pas forcément ceux qui gagnent le plus de pognon, ni qui sont les plus valorisés, mais qui, en fait, ont potentiellement une forme d'utilité sociale qui est juste énorme pour la société. Donc, il y a un peu un truc où, en fait, il y a plein de gens qui sont méga engagés ou qui s'occupent de nos personnes âgées dans les EHPAD, par exemple, qui sont aussi beaucoup de personnes potentiellement issues de l'immigration. Enfin, il y a un vrai truc où ces gens-là sont plutôt en bas de l'échelle, alors même qu'ils ont une utilité sociale qui est juste énorme. Donc il y a un truc de l'engagement, pour le coup, si on prend ce spectre-là, c'est pas du tout un truc de privilégié. Par contre, ça serait cool potentiellement de créer un modèle économique sociétal qui permette de mieux les rémunérer, parce que ça passe aussi par ça, de pouvoir remplir son frigo à la fin du mois. Et après, de fait, c'est quand même un truc où moi j'ai pu faire ces choix parce que, je l'ai dit en début, j'étais très privilégié en fait. Et c'est parce que les générations d'avant moi m'ont permis d'être à cet endroit-là que j'ai pu faire ces choix-là. Par contre, du coup, parce qu'on est privilégié, on a la responsabilité pour moi de se dire ok, c'est un peu Spider-Man, j'ai un grand pouvoir, grande responsabilité, de si je peux faire les choix, il n'y a aucune raison de ne pas les faire quoi. Et moi j'avais fait l'alternance pour payer mon école, donc j'avais pas d'emprunt à rembourser. Il y a ça aussi qui est une méga contrainte quand on sort de l'ESSEC. Voilà, mais en tout cas, si on peut avoir ce choix-là et si on est privilégié, alors encore plus que les autres, on peut faire quelque chose de ce choix-là, je trouve.
Tu voulais...
Ouais, je rebondis parce que nous, en tant que bailleur social, nos premiers salariés, c'est des gardiens d'immeubles. Donc c'est ce que tu disais sur des métiers qui sont pas des parcours de personnes privilégiées. Donc je rebondis juste en disant t'as raison de se dire que ces métiers que l'engagement il dépend pas des moyens, et heureusement. Mais après il dépend pas, mais je nous invite tous à nous dire le fait que je sois privilégié, est-ce que ça doit pas m'inviter au moins à me questionner sur l'impact que je peux avoir. Et après, la réponse, vous la trouvez, elle prend plein de formes, associative, le week-end, dans votre vie professionnelle. Mais le fait d'être privilégié, c'est au moins de se poser la question. Enfin, ça me paraît au moins de se poser la question. Voilà, ça me paraît ça.
Peut-être juste, parce que je vois l'horloge qui tourne et on a encore des étudiants. J'ai encore peut-être deux questions. Et la première, c'est, vous avez quand même des profils un peu de ce que moi j'appelle des serials engagés, parce que vous avez parlé d'engagement dans le cadre de votre vie professionnelle, mais on entend à côté aussi. Comment est-ce qu'on fait pour concilier, pour tout concilier, en fait, la vie perso, ses loisirs, ses hobbies, et de mettre l'engagement à ce point au cœur de sa vie?
J'y vais. Gaëlle m'a fait un petit clin d'œil. J'ai une réponse pas glamour du tout. L'organisation et la priorisation. Surtout là, j'ai deux enfants en bas âge, donc se poser encore plus la question de pourquoi on fait les choses est vraiment très importante. Et quelque chose dont on entend beaucoup parler en ce moment aussi, c'est la santé mentale. C'est prendre soin de soi. Parce que dans l'engagement, on voit beaucoup aussi de personnes avec syndrome du sauveur ou des égos grands comme le Texas. Et en fait, on ne peut pas aider les autres si soi-même, on n'est pas solide sur ses appuis. Et donc, je pense que c'est très, très important, effectivement, pour pouvoir continuer de tout concilier, de tout faire avec le degré d'engagement et le degré de... Et l'impact qu'on voudrait avoir, c'est de prendre soin de soi. Et pour ça, malheureusement, effectivement, ça passe par la priorisation, se poser les questions de suis-je à l'endroit où j'ai envie d'être et s'organiser et demander de l'aide, beaucoup d'aide.
Dernière question, sauf si quelqu'un veut ajouter quelque chose. Qu'est-ce que vous auriez aimé qu'on vous dise, là on est voilà, dans ce grand amphi avec une nouvelle génération d'étudiants ESSEC, voilà, pour à la fois profiter pleinement de, voilà, de l'expérience ESSEC. Anne-Claire parlait de la plateforme ESSEC, à la fois d'un point de vue voilà, académique, vous avez parlé beaucoup des chaires, des filières. Maxime, tu as parlé de la filière droit, de la possibilité d'avoir voilà, un master à côté, c'est un exemple parmi tant d'autres. Voilà, qu'est-ce que vous auriez envie de conseiller à la fois pour profiter à fond de ces années d'ESSEC et peut-être aussi donner des pistes, des idées à celles et ceux qui voudraient s'engager, mais pour qui voilà, c'est pas forcément très clair, et peut-être des, voilà, des pistes d'engagement possibles.
Bon, moi, il y avait quelques idées qui me venaient en tête sur cette question-là. La première, c'est de regarder. Ici, vous avez du temps quand même par rapport à la prépa. Ça vous laisse le temps de regarder le réel en face, en fait, et du coup de lire et regarder et voir plein de trucs. Et dans les trucs qui me venaient, il y a sur le dérèglement climatique, il y a un roman trop chouette de Stéphane Marclay qui s'appelle Le Déluge, que je vous recommande, parce qu'il montre justement comment est-ce que l'impact du dérèglement climatique, il y a plein de trucs avec des gens qui bossent en finance, des gens qui bossent dans plein de secteurs différents, vont se positionner par rapport à ce sujet-là. Et je trouve ça super intéressant en termes de réflexion sur l'IA, qui est un grand enjeu de notre siècle et qui va être beaucoup travaillé ici. Et il y a des vidéos et des livres de Eric Sadin qui s'aiment beaucoup, mais qui dit des choses qui sont très intéressantes. Donc je vous recommande aussi d'aller voir ça, enfin, en tout cas de vous ouvrir les chakras là-dessus et de voir un maximum de choses. Sur votre place ici à l'ESSEC, il y a un documentaire il n'y a pas très longtemps d'Arte qui s'appelle HEC Admis sur les codes. Je trouve ça intéressant d'aller voir ça. Donc mon premier truc, c'est regarder le réel en face et la situation du monde dans lequel vous vivez, et vous avez le temps pour faire ça, et c'est super important de vous nourrir. Le deuxième truc, c'est construire votre vie et pas votre carrière. Je pense que c'est super important, et du coup, bah, tester des trucs, un max de trucs à l'ESSEC, dans vos expériences, oser faire des trucs différents. Et faire oui du conseil, de la finance et d'autres trucs en fait, et en fait vous arriverez toujours à raconter un récit qui rend ça cohérent a posteriori. Donc je pense qu'il y a un vrai truc de tester des trucs, quoi. Le troisième truc qui me venait, c'est ayez un rapport apaisé et sain au pognon. De quoi vous avez besoin pour vivre, en fait? Et c'est super important de se poser réellement cette question-là, et pas qu'est-ce que je vaux par rapport à mon diplôme, qu'est-ce que je vaux par rapport à mon diplôme, qu'est-ce que je vaux par rapport au métier que je fais. La question, c'est de quoi vous avez besoin pour vivre, de quoi vous avez besoin pour rembourser votre emprunt. Et en fait, c'est cette bonne question-là à se poser qui est importante, je trouve, pour avancer, et c'est super important. Et après, le troisième point que j'ai, c'est qui est un peu en lien avec ce qu'on fait aujourd'hui, on ne voudra pas autre chose, mais engagez-vous. Et vous engager, ça peut prendre tellement de formes. Dans tous les secteurs professionnels, on peut s'engager. Ça peut être à côté de votre taf en étant bénévole, ça peut être en étant administrateur dans des conseils d'administration. Ça peut être aussi ce que vous allez faire de votre pognon si vous en gagnez beaucoup. Il y a plein de solutions, d'aller investir directement chez l'ITA. Il y a des super projets menés par des essais comme Seconde œuvre sur recycler les choses du bâtiment pour les réutiliser, qui a été écrit par une ancienne de l'ESSEC aussi. Il y a l'ITA.co qui permet d'investir aussi. Donc en fait, vous avez aussi cette marge de manœuvre-là de se dire peut-être je gagne beaucoup d'argent, qu'est-ce que j'en fais, quoi? Est-ce que je mets sur un contrat d'assurance vie ou je ne sais pas ce qui se passe? Ou est-ce que je décide d'investir sur des projets qui ont du sens? Donc il y a un vrai truc pour moi de engagez-vous, et il y a tellement de façons de s'engager.
Yeah. Et moi, je rajouterais un petit truc. Pour ceux qui sont un peu comme moi, je l'étais à l'époque, un peu perdu, c'est de suivre votre intuition, de pas d'autocensure sur la petite musique là qui tourne et qui vous dit « Ouais, j'aimerais bien faire ça, mais je suis en école de commerce, je sais pas si je peux le faire, etc. etc. » Allez voir autour de l'ESSEC, il y a plein d'assos. Il y en a dedans, mais il y en a aussi en dehors. Et effectivement, voilà, suivez votre intuition, pas d'autocensure, et tout se passera bien.
Raphaël,
100% d'accord avec ce que vient de dire Gaëlle. Moi, à votre place dans cet amphi, j'aurais aimé qu'on me dise n'ayez pas peur de tester plein de choses. En fait, c'est pas grave si vous plantez. Et moi, personnellement, en sortant de la prépa, j'aimais pas me planter. J'étais très, il faut vraiment que j'ai la bonne note, le bon devoir, le bon commentaire. Vraiment, ce syndrome bon élève extrêmement accroché. Et peur de décevoir les attentes, et notamment les miennes. Et c'est pas grave. Et j'aurais vraiment aimé qu'on me dise ça. C'est pas grave de se planter, c'est pas grave de faire peut-être un cours ou un truc 3 mois qui vous plaît pas. Et en fait, tout ça va vous enrichir et va vous permettre de vous relancer dans autre chose. Donc, c'est vraiment ce que tu disais. Vous avez avec l'ESSEC une sorte de buffet à volonté de plein de choses très différentes si on se donne la peine de regarder ce qui existe. Et donc, vraiment, n'ayez pas peur de peut-être ne pas avoir le parcours parfait, je dirais. L'essentiel, comme disait Seb, c'est la manière dont vous le raconterez. Et ça, l'ESSEC va vous y aider.
Maxime.
Je finis en disant, moi, ce que j'aurais aimé qu'on me dise quand j'étais là, c'est sois curieux de tous les parcours qu'offre l'ESSEC, parce que tu peux très vite, j'ai le sentiment que tu peux très vite te laisser emporter, entraîner, sans te renseigner. Hop, 3 ans, 4 ans, ça passe super vite. Et moi, c'est quasiment par hasard, je croisais quelqu'un qui m'a dit, t'as entendu parler de cette chaire-là, le cursus droit aussi. J'avais pas fait de démarche proactive, alors j'ai eu de la chance, c'est venu à moi, mais j'aurais aimé qu'on me dise, sois un peu proactif, t'as du temps. T'en auras, c'est une période où tu as du temps, sois un peu proactif et tu as largement le temps d'être proactif et d'avoir la vie associative de l'ESSEC, etc. Et franchement, se renseigner simplement sur la possibilité, envoyer 3-4 messages à des alumni qui ont fait ces chaires-là pour comprendre ce qui s'est passé, c'est le conseil que j'aurais voulu qu'on me donne. Ouais.
Un grand merci à tous les quatre. Je pense qu'on a réussi la mission de vous montrer des parcours, on va dire différents de ce que vous pouviez avoir en tête. Et pour terminer, je vais inviter deux étudiants, une étudiante et un étudiant qui sont en fin de parcours. Donc Anaïs et Omer, si vous voulez bien me rejoindre sur scène, pour vous montrer comment ça peut s'incarner concrètement l'engagement à l'ESSEC. Et ça va faire le pont avec ce que disait Anne-Claire tout à l'heure sur l'entrepreneuriat aussi. Oui. Rapprochez-vous de moi, tous les deux. Vous êtes tous les deux en fin de parcours ?
Tout à fait.
N'est-ce pas ? Quand vous étiez, vous êtes tous les deux dans le programme Grande École, en fin de parcours, quand vous êtes arrivés à l'ESSEC, déjà, est-ce que vous aviez un projet professionnel et quel était votre projet professionnel ?
Bonjour à tous. Tout d'abord, moi, je suis pas arrivé après prépa, je suis arrivé après un cursus ingénieur. Et quand je suis arrivé à l'ESSEC, j'avais défendu le projet entrepreneurial. J'avais pour ambition de monter ma start-up. Et on le verra par la suite, mais du coup, l'ESSEC offre un océan infini de possibilités. Et du coup, les routes peuvent très vite varier.
Anaïs ?
Alors moi je suis arrivée en post-prépa, je suis arrivée en 2022, donc j'étais à votre place il y a 3 ans, et en 3 ans il s'est passé plein de trucs, et en vrai quand je suis arrivée à l'ESSEC, je sortais de prépa, peut-être pour le contexte, moi je viens d'un milieu ouvrier rural, donc l'école de commerce, l'ESSEC, ça me parlait pas du tout, et alors encore moins que l'école de commerce, c'était les métiers qu'on fait après une école de commerce. Moi je suis arrivée, j'avais demandé de l'aide et on m'avait pitché un projet professionnel que je comprenais pas et je le disais par cœur en entretien de personnalité. Alors peut-être ça parle à certains d'entre vous, je sais pas. Mais et je comprenais rien. Et donc je suis arrivée à l'ESSEC et je me suis assise dans ces fauteuils et je me suis demandé comment je vais trouver une voie qui me plaît. Le conseil, je comprends même pas ce que c'est. La finance, j'ai l'impression que ça a l'air hyper prenant et ça me parle pas non plus. Donc à un moment, je me suis dit va falloir que je trouve aussi une voie qui me correspond peut-être plus. Et c'est venu au fur et à mesure, mais quand je suis arrivée à l'ESSEC, en tout cas, je n'avais aucune idée de ce que j'allais faire, mais je savais que j'avais envie de faire un truc engagé, et je ne voyais pas comment j'allais pouvoir le concilier avec l'ESSEC.
Ça, c'était ma question, c'est est-ce que vous êtes arrivée avec cette idée-là, en fait, de mettre l'engagement au cœur, Omer, toi, de ta start-up, et toi, Anaïs, de ton projet, ou est-ce que ça s'est construit au fur et à mesure ?
Alors, quand je suis arrivée à l'ESSEC, il faut savoir déjà que moi, je suis plutôt scientifique. Et avant d'arriver à l'ESSEC, j'avais toujours un peu craché sur les écoles de commerce. Il s'avère que quand on veut monter des projets, etc., il y a certains aspects qu'on est obligé d'apprendre. Et du coup, il faut passer par la case apprentissage. Donc, ingénieur, ça ne suffit pas à monter des projets. La technique, ça ne suffit pas. Il faut aussi l'aspect business. Et du coup, quand moi je suis arrivé à l'ESSEC, j'avais déjà cet engagement-là dans la tête, mais je ne savais pas exactement comment le concrétiser côté business. Et ça s'est construit au fur et à mesure du parcours à l'ESSEC.
Et moi, je sentais que j'avais envie de faire quelque chose d'engagé, mais vraiment, je ne voyais pas le lien avec l'ESSEC. Déjà, j'avais l'impression qu'on ne m'avait jamais expliqué qu'on pouvait faire une école de commerce et à la sortie autre chose que du conseil et de la finance. Donc ça, c'était le premier point. Et en fait, quand je suis rentrée à l'ESSEC, au tout début, j'ai essayé juste de voir l'ampleur de ce que proposait l'ESSEC, parce que quand je suis arrivée, je me suis dit, bon, bah, je vais suivre, il y a sûrement un chemin déjà tout fait, ils ont tout pensé pour nous, mais ces 3 prochaines années, je vais faire les fondamentaux, il y a des cours, et je vais pas trop me poser de questions, et puis à la sortie, je verrai, sauf que... Si j'avais fait ça, honnêtement, je ne sais pas où je serais là maintenant, mais j'aurais pas le parcours que j'ai, la fierté que j'ai du parcours que j'ai choisi à l'ESSEC. Et ça, je trouve que c'est vraiment un point super important quand on rentre à l'ESSEC. On choisit entièrement son parcours. Alors évidemment, il y a des fondamentaux. Et ces fondamentaux, comme c'était évoqué tout à l'heure, en fait, dans le milieu professionnel, ils servent dans tous les domaines. On en a besoin tout le temps. La finance, en réalité, ce n'est pas seulement dans des grandes banques. On en a besoin tout le temps dans notre métier. Et je trouve que l'idée qu'on choisisse son parcours, ça m'a vraiment donné la possibilité de mêler engagement et le parcours à l'ESSEC.
Omer, peut-être on peut dire 2 mots sur à la fois ta start-up et en quoi l'entrepreneuriat, c'est vraiment une voie qui permet de s'engager. Toi, tu as choisi une cause sociale dont tu vas nous parler.
Ok. L'entrepreneuriat, faut savoir déjà que ces mots entrepreneuriat, etc. On a des idées dans la tête et on ne sait pas vraiment ce qu'on fait. Moi, par exemple, j'avais pour idée de monter un projet. Je savais pas ce que c'était d'être entrepreneur. J'avais imaginé mon projet et en fait, il s'avérait que c'était un projet à impact. Mais je savais même pas ce que c'était l'impact avant qu'on me dise que c'est valorisé en France. Et un petit mot sur ma start-up. Donc moi, je suis le fondateur de MinaClass. MinaClass, c'est une application de mise en relation pour prendre et donner des cours particuliers. Et la particularité, c'est que on a mis en place un système innovant qui permet en fait de permettre aux gens qui n'ont pas les moyens de prendre des cours de pouvoir en donner pour en recevoir. Et ça, c'est très important parce qu'au fil de mon parcours personnel à moi, j'ai réalisé qu'on a beaucoup de lacunes à combler, mais on a aussi des compétences qu'on peut valoriser. Et du coup, je suis parti de cette idée un peu loufoque que si je voulais apprendre l'informatique, peut-être que je pouvais donner un cours de League of Legends en échange. Donc, MinaClass, c'est ça. MinaClass, t'as besoin d'un cours de maths à 50 euros, t'as pas 50 euros, tu peux très bien donner un autre cours. Tu peux donner un cours de guitare, réutiliser l'intégralité de ce montant-là pour prendre le cours de ton choix. Et bien sûr, tu peux aussi te rémunérer. Si tu veux gagner de l'argent, si tu veux donner des cours pour gagner de l'argent, tu peux. Si tu veux prendre des cours, tu peux aussi les payer directement par carte bancaire. Et c'est marrant parce que je disais pas ça pour rien. Il y a quelques mois que j'ai réalisé que mon projet c'était un projet à impact. Avant je savais pas ce que c'était l'impact social. Et j'ai réalisé ça en fait en parlant à ma référente de ESSEC Ventures et aussi de Entropia. Ils m'ont présenté la chose et ils m'ont dit qu'en fait, ton projet rentre totalement dans ce verbatim.
Merci beaucoup. Donc juste, je ne sais pas si vous connaissez l'incubateur de l'ESSEC. Donc l'objet, c'est d'accompagner tous les projets entrepreneuriaux, de vous aider, de partir de l'idée à la concrétisation. Et donc l'ESSEC accompagne aussi les projets impact.
Oui. Donc à l'ESSEC, il y a 2 incubateurs. Il y a ESSEC Ventures et il y a Entropia. Entropia, c'est plus pour le social et il y a beaucoup pas mal d'associations dedans. Et ESSEC Ventures, c'est l'incubateur originel. À la base, ils investissaient même, mais ils ont arrêté il y a quelques années. Et donc moi, dès mon arrivée à l'ESSEC, j'ai rejoint l'incubateur ESSEC Ventures. Et en fait, ils accompagnent du début à la fin, c'est-à-dire qu'ils accompagnent même quand on a une idée. Quand on a une idée, c'est la pré-incubation, puis après, il y a l'incubation pour les projets un peu plus avancés.
Merci. Anaïs, toi, on vous a beaucoup parlé des cordées de la réussite, des programmes de tutorat. Je pense que nombre d'entre vous n'en ont pas encore entendu parler. On prendra 5 minutes tout à l'heure pour en parler plus précisément. Et toi, Anaïs, quand tu es arrivée donc en première année, en pré-master, tu as fait le choix de devenir tutrice pour l'égalité des chances. Est-ce que tu peux nous dire déjà ce que c'est que d'être tutrice ?
Tout à fait. Donc quand je suis rentrée à l'ESSEC, je voulais m'engager. Donc au début, première année, je n'ai pas compris comment je pouvais le faire dans mon parcours professionnel. En revanche, assez rapidement, j'ai compris que je pouvais le faire déjà dans l'école. On a eu des premiers amphis comme maintenant, où on nous a présenté donc, le programme Pourquoi pas moi, une grande école Pourquoi pas moi, et le programme phare. Donc je précise phare parce qu'en réalité, il y a moins de jeunes, mais c'est ceux dont moi j'étais tutrice, et je tiens à le préciser parce que c'est un moment très fort. Moi, l'ESSEC, humainement parlant, c'est certainement le moment le plus fort que j'ai vécu pendant ma première année. C'était vraiment cette rencontre avec ces jeunes. Donc le programme PQPM ou phare, le principe, c'est une fois par semaine, vous êtes bénévolement tuteur d'un groupe de jeunes. Donc en général, c'est le samedi matin. Et c'est un moment où vous échangez avec eux. L'objectif, c'est d'améliorer leur aisance à l'oral, leurs soft skills, et de les pousser, ou en tout cas de les aider à trouver une porte de sortie vers l'enseignement supérieur.
Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces jeunes ?
Du programme phare ou en général ?
Les deux.
Les deux. La première chose, c'est qu'ils ne viennent pas avec les mêmes chances que nous, ou en tout cas que certains d'entre nous. Et donc, y a déjà cette idée qu'on est là pour leur permettre d'arriver dans l'enseignement supérieur avec un bagage suffisant et qui est complété par ce tutorat. Et la spécificité du programme phare, c'est que c'est des jeunes en situation de handicap scolarisés dans le milieu ordinaire. Donc, autrement dit, c'est des jeunes, donc de la troisième à la terminale, qui ont un handicap et qui ont été dans nos classes respectives à toutes et tous. Et donc, quand ils venaient le samedi matin, c'était une vraie bouffée d'air pour eux, parce qu'ils se retrouvaient entre eux, ils pouvaient parler librement, participer aux ateliers, se confier. Et donc, c'est vraiment un moment super privilégié, et surtout, c'est une expérience complètement hors du cadre, hors du temps dans l'ESSEC, parce que le samedi matin, on se retrouve à l'ESSEC est vide, et puis on retrouve nos jeunes, on est trop contents de les voir, et puis on garde des liens. Et je tenais à préciser que c'est vraiment du hasard, mais ce matin encore, une de mes jeunes m'a écrit pour me dire que finalement, elle avait eu le vœu qu'elle voulait depuis le début et qu'elle rentrait à la fac et qu'en fait, elle va pouvoir faire du forensique pour devenir criminologue. Voilà. C'était juste le hasard.
Génial. Donc, un an d'engagement auprès d'un groupe de jeunes. Qu'est-ce que ça t'a apporté ? Aujourd'hui, tu es en fin de cursus, tu es en apprentissage sur ton dernière expérience professionnelle. Qu'est-ce que ça t'a apporté comme compétence que tu mobilises aujourd'hui dans ton quotidien professionnel ?
Complètement. Quand j'ai rejoint le programme phare, je voyais assez clairement ce que ça allait porter aux jeunes. Enfin, c'est surtout pour ça que je l'ai rejoint au départ. On se dit, on fait quelque chose de bien, on vient bénévolement aider des jeunes qui sont en difficulté pour aussi leur transmettre des choses qu'on a apprises en prépa ou avant. Et cette idée-là, je la trouvais super réjouissante. Et j'avais même pas pris conscience à ce moment-là que c'était pas seulement eux qui allaient pouvoir tirer profit, entre guillemets, de ce moment privilégié, mais moi aussi. Et c'est à la fin de l'année que je me suis rendu compte que, dès le début, dès la première séance, dès qu'on est devant un groupe de jeunes, comme maintenant, devant un amphi, de jeunes qui sont pas forcément super attentifs, ou alors qui bavardent, ou comme on a été tous des élèves, on se retrouve, nous, à la place du prof. Donc, la première fois, ça fait un peu bizarre, parce qu'on est obligé de recadrer un jeune, mais on a 4 ou 5 ans de plus que lui. On est obligé de lui dire range ton portable, c'est pas le moment de faire ci, faire ça. Donc déjà, il y a cet aspect un peu de gestion d'un groupe ça vient pas tout seul. Et je trouve que c'était un exercice tellement intéressant et moi, ça m'a tellement aidé dans l'aisance à l'oral moi-même. J'étais là pour les aider à améliorer leur aisance à l'oral quand eux-mêmes, par leur présence, m'aidaient à le faire. Donc il y avait cet aspect-là, d'aisance à l'oral, ce qui fait que je peux vous parler devant 500 personnes aujourd'hui. Et sinon, il y a aussi, évidemment, il y a l'aspect vulgarisé. On sort de prépa, on a passé 2 voire 3 ans à écouter, répéter des choses qu'on a apprises par cœur. Et là, c'est un moment où on a des jeunes en face de nous qui sont pas forcément habitués à parler de certains sujets ou sensibilisés à la géopolitique, la culture générale. Et donc, en fait, il faut à un moment vulgariser des choses et leur transmettre des idées, et le faire comme on le faisait en prépa, ça marche plus. Et donc je trouve que c'est un bon exercice de transition entre la vie en classe prépa et la vie en école de commerce et puis le monde professionnel, se dire qu'à un moment on peut pas toujours être des robots et des machines comme on l'était en prépa, il faut passer au-delà et rentrer dans le côté humain relationnel que demande l'entreprise. Et ensuite il y a la partie confiance dans ce qu'on fait, de remise en question. Je pense que vraiment quand on travaille dans des métiers de l'engagement, il y a vraiment cette remise en question perpétuelle parce que a priori on travaille surtout pour les autres, et donc si on travaille pour les autres mais que les autres ça leur sert à rien et que nous on est convaincus, on est dans notre truc et qu'en fait si ça fonctionne, Si on ne se remet pas en question, on ne peut pas vraiment avancer, proposer des choses nouvelles et proposer des choses qui fonctionnent. Et les jeunes, c'était pareil. Le samedi matin, si à un moment je sens qu'il y a un atelier, moi j'y tiens, mais eux, ils ne m'écoutent pas, est-ce que vraiment ça fait sens de le faire tous les samedis matins? Je ne suis pas sûre. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait des caout. Ils adoraient les caout. Donc, j'ai mangé du caout. On a fait du caout sur l'actualité, la culture générale. Et par exemple, ça, c'était un truc qui marchait et je savais qu'ils retenaient des choses. Et donc, il y a cette idée de remise en question que je trouve qui est aussi importante dans le milieu professionnel, qui est importante aussi quand vous êtes à l'ESSEC. Et d'ailleurs, c'est un sujet, enfin, c'est ce que vous devez faire dès maintenant quand vous rentrez à l'ESSEC, de posez-vous les questions, soyez curieux, allez voir ailleurs, essayez de vous intéresser à tout ce qu'on propose. L'ESSEC est vraiment riche à ce niveau-là. Et notamment l'expérience de PQPM et de Phare, c'est vraiment une occasion à un moment de se challenger, j'aime pas trop ce mot, mais.
Et sortir un peu de sa zone de confort.
Exactement, et d'essayer autre chose.
Du coup, tu fais une transition parfaite. La même question que j'ai posée finalement à nos alumni témoins. Qu'est-ce que vous avez envie de dire et de donner comme conseil à la nouvelle génération qui vient rentrer à l'ESSEC?
Félicitations, vous êtes tous à l'ESSEC. En fait, j'ai envie de dire, moi, donc, j'ai arrivé à l'ESSEC en 2022. Je suis arrivé avec des idées. L'ESSEC, ça ouvre un champ des possibles infini. Je vais vous raconter mon histoire personnelle. Quand je suis arrivé à l'ESSEC, comme je vous ai dit, moi, j'avais pour ambition de faire de l'entrepreneuriat. Et en fait, il y a eu trois phases pendant que j'étais à l'ESSEC. La première phase, ma première année, j'ai placé tous mes cours. J'ai placé 20 UV, du coup. Et en fait, pendant cette première année, on se fait plein d'amis, on discute avec pas mal de monde. C'est ce que j'ai remarqué, à l'ESSEC, souvent, on veut soit faire de la finance, soit du conseil en stratégie. Et en finance, souvent, vous allez voir vos amis, ils veulent faire de la fusion d'acquisition en particulier. Quand tu arrives et que tu dis que tiens, tu veux entreprendre, tu veux prendre des risques, tu n'as pas un salaire assuré, etc., très vite, on te regarde bizarre. Pourquoi j'en parle? Parce que c'est très, très difficile. Tout le monde parle de ça, tout le monde passe des entretiens, se prépare à tout ça. Et j'aime bien dire que j'ai eu une phase, quelque part, où j'ai failli me faire... corrompre, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, pas du tout, c'est très bien, c'est des très bonnes carrières, mais l'essentiel c'est de savoir ce qu'on veut dans la vie. Moi je suis arrivé avec certaines ambitions, pendant un moment donné je me suis dit non, si tu ne fais pas ça, tu vas gâcher ton ESSEC en fait. Si tu ne ressors pas chez un MBB ou... Ouais, chez un MBB, tu n'auras pas profité du plein potentiel de l'ESSEC. Pendant la deuxième phase de mon expérience à l'ESSEC, j'ai commencé et je me suis dit, on va faire un stage. Donc j'ai fait un stage de bras droit CEO dans une entreprise qui a levé 10 millions. C'est là où en fait, j'ai réalisé, c'est bien, mais recentre-toi sur l'essentiel et fais en fait ce que tu as envie de faire. Et donc, c'était une césure. Je devais faire un premier stage en conseil. Le deuxième, je devais le faire en finance. Et là, en fait, j'ai complètement tout plaqué après ce premier stage que j'ai abrégé. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai monté, du coup, une première entreprise avec mon frère. Je me suis mis en alternance dans cette entreprise-là, dans le bâtiment, dans la rénovation. Donc, on travaille aussi avec des bailleurs sociaux. Et... pourquoi? Parce que faire cette alternance-là, ça me permettait en fait d'avoir la liberté en temps de monter mon projet entrepreneurial en parallèle. À ce moment-là, j'ai commencé à travailler sur des projets entrepreneuriaux, sur la boîte familiale, sur l'application, qui d'ailleurs a beaucoup stagné pendant toute cette période-là et que j'ai lancé il y a quelques mois maintenant. Donc tout ça pour dire qu'on fait ce qu'on veut quand on est à l'ESSEC, on met les cours les jours qu'on préfère, avec les profs qu'on préfère, on peut vraiment tout faire, même faire une alternance dans sa propre boîte et monter un projet entrepreneurial en étant bien accompagné par tout un écosystème. Et la concrétisation de ça, c'était de recevoir la bourse de la Fondation ESSEC. Donc en fait, on est accompagné de A à Z et on peut vraiment faire accomplir ses rêves.
Donc c'est à la fois saisir toutes les opportunités, mais suivre son cœur, son choix de cœur.
Suivre son cœur, suivre ce qui nous pousse en fait à l'intérieur de nous, ce que nos alumni disaient, savoir ce qui nous permet de nous réveiller le matin en fait, pourquoi on fait ce qu'on veut faire, c'est quoi exactement qui nous pousse en notre nous.
Anaïs, petit mot de la fin.
Oui, alors très, très rapide. La première chose, c'est ne faites pas le strict minimum à l'ESSEC. Vraiment, faites le maximum. C'est-à-dire que vraiment, testez plein de choses. Alors, très rapidement, moi, j'ai fait un Going Pro en conseil, parce qu'il fallait que je sache que c'était le conseil avant de dire que j'aimais pas. J'ai fait une expérience projet d'entrepreneuriat. J'ai fait un stage en mécénat. Et en fait, j'ai fait une chaire innovation sociale, mais je me suis pas fermée non plus à d'autres discussions, à d'autres... Enfin, tous mes copains font du conseil ou de la finance. Bon, bah, y a un moment, faut accepter que c'est pas notre parcours. Donc la première chose, c'est ne faites pas le strict minimum, intéressez-vous à tout, et il n'y a pas de parcours moins exigeant ou moins réussi que d'autres. Et ça, c'est pour faire le lien rapidement avec juste une deuxième chose. J'ai fait un parcours où c'était pas une évidence de faire l'ESSEC. J'ai eu l'impression un peu de monter. Enfin, je venais de la campagne des Pyrénées, j'ai fait mon lycée à Toulouse, puis j'ai fait ma prépa à Paris, puis je suis rentrée à l'ESSEC. Il y avait un truc de, bah, du coup, la continuité, c'est qu'il faut que je continue d'avancer. Et bosser dans l'engagement, bah, du coup, je rétrograde un peu, ou alors c'est moins bien, ou c'est pas ambitieux. Vraiment, ne pensez pas comme ça, parce que de toute façon, ce que vous ferez en sortie d'ESSEC, c'est pas moins exigeant. Il y a besoin de tous les métiers, de toutes les compétences, et tout. Enfin, moi, c'est vraiment un truc que j'apprends là en alternance. C'est que tous les métiers sont exigeants. Je pense que je travaille avec Maxime, donc pour l'anecdote, le réseau, c'est important aussi. Moi, je pense vraiment, il y a plein de métiers dans toutes les entreprises qui sont exigeants, où il y a plein de... Enfin, où vraiment, tout ce qu'on apprend à l'ESSEC sert. Ça demande autant de temps, autant d'implication, autant de travail, et c'est pas parce que c'est dans l'engagement que c'est moins important ou moins ambitieux. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris à déconstruire en rentrant à l'ESSEC.
Merci, Anaïs. On peut les applaudir, et avant de vous libérer... Je vais inviter, vous pouvez rester, vous pouvez rejoindre vos sièges, comme vous voulez. L'occasion était trop belle pour ne pas vous parler du tutorat et de l'engagement possible, concret, ici, maintenant, sur les sujets d'égalité des chances. Je vais appeler Zineb Traoré, qui est la responsable de tous les dispositifs égalité des chances de l'ESSEC, et qui va vous dire pourquoi il faut s'engager.
Bonjour à tous et toutes. Certains, certaines m'ont peut-être déjà vu. Je suis Zineb, je suis responsable du pôle égalité des chances de l'ESSEC. Et comme Anaïs ou Maxime vous l'ont dit, on vous propose de vous engager à nos côtés pour être tuteur et tutrice de nos programmes. Très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire être tuteur, tutrice de nos programmes? C'est avoir la chance vraiment d'accompagner des jeunes qui sont extrêmement motivés, qui ont envie, qu'on sélectionne dans des établissements scolaires avec lesquels on est partenaire, et de les accompagner justement à développer les compétences qui vont leur être utiles à la fois pour faire des choix d'orientation qui leur ressemblent et qui coïncident avec leur potentiel, mais aussi de réussir les études supérieures qu'ils et elles auront choisies. Et donc, on travaille avec à la fois les pouvoirs publics, des entreprises privées. Et donc, vous rejoignez un écosystème, une équipe engagée et des jeunes vraiment hyper motivés régulièrement. Donc, très concrètement, pour aller vite ou pas, il y a deux programmes, comme Anaïs le disait. Donc, PQPM, une grande école, pourquoi pas moi, qui permet d'accompagner des jeunes de milieux populaires en troisième, en première ou en terminale. Des jeunes qui viennent du 78, du 93 ou du 95, et le programme phare qui s'adresse à des jeunes qui sont en situation de handicap, qui sont scolarisés en milieu ordinaire et qui, sur les mêmes enjeux, en fait, ont aussi besoin d'être accompagnés pour lever les freins à l'accès à l'enseignement supérieur. Concrètement, comment ça se passe? C'est toute l'année, sauf pendant les vacances scolaires, à la fois les vacances scolaires des élèves, mais aussi pendant vos vacances. C'est soit le samedi matin ou le mercredi après-midi. La plupart des groupes sont ici à l'ESSEC à Cergy, mais on a aussi un groupe de collégiens qui font le tutorat à Drancy, en fait, dans la ville dans laquelle ils sont scolarisés. Et quand c'est à Drancy, vous avez une navette qui vient vous chercher à l'ESSEC, qui vous ramène à Drancy et qui soit vous ramène à Cergy si vous devez revenir à Cergy, ou alors vous laisse vivre juste après, sachant que Drancy, c'est à 15 minutes de Paris, ce qui vous rapproche beaucoup par rapport à Cergy. Donc vous avez le choix, voilà, de vouloir être avec des collégiens, des lycéens, à l'ESSEC Cergy ou à la mairie de Drancy. On considère, et Anaïs dira si je mens ou pas, que c'est à peu près 4-5 heures d'engagement par semaine, comprenant la séance de tutorat en elle-même. Pourquoi 4-5 heures? Parce que faut aussi préparer votre séance. Voilà, vous allez être en binôme, donc vous serez toujours deux étudiants de l'ESSEC en face d'un groupe de 8 à 9 élèves. Et il y a besoin un petit peu de préparer la séance, de savoir sur quel sujet vous avez envie de travailler, qu'est-ce que vous avez envie de leur proposer le samedi matin ou le mercredi après-midi, sachant qu'on est une grosse équipe et qu'on vous accompagne du début à la fin. Vous êtes formés, vous êtes accompagnés, on est présent le samedi matin, le mercredi après-midi, on vous envoie des plans de séance avec le contenu de ce que vous pouvez proposer aux jeunes, donc vous êtes vraiment pas laissés un peu en autonomie sur cette question-là. On est une équipe, et elles sont juste devant, je vous avais pas vu, qui vous accompagne tout au long de l'année. Et donc, très concrètement, on n'a pas le temps, là, sinon je vous ferai toute la presse, mais vous pouvez venir nous voir demain, on a deux réunions d'information. Demain à midi, donc ça dure 45 minutes, n'hésitez pas, vous pouvez venir avec votre repas, votre déj, il n'y a aucun problème. Ou demain à 17h30 en E157. L'idée de cette réunion d'information, c'est de vous donner un peu plus de précision, de pouvoir répondre à vos questions et de prendre le temps de vous expliquer concrètement comment ça fonctionne. C'est aussi l'occasion de vous expliquer comment on recrute, puisque du coup, un peu comme les jeunes, on vous fait passer des entretiens de recrutement pour choisir les 50 tuteurs, je ne l'ai pas dit, on recrute cette année 50 tuteurs et tutrices. Vous pouvez aussi scanner le QR code, puisqu'on va vous proposer d'autres dates qui vont venir. On vous enverra aussi, ça permet d'avoir vos coordonnées, de vous envoyer un mail pour vous proposer les autres dates. Et peut-être que c'est pas assez dit, ou enfin pas assez clair, mais c'est vraiment... y a tous les intervenants, les alumni ont parlé de curiosité, de tester des choses avec lesquelles vous n'avez pas l'habitude. Je pense que vraiment l'ESSEC vous permet de faire ça et d'être dans une structure, en tout cas sur le pôle égalité des chances autour de PQPM et FAR, c'est d'avoir la chance de vous engager sur un sujet qui est l'égalité des chances, de concrètement voir votre impact chez les jeunes, puisqu'entre la première séance en novembre, la dernière séance en juin, vous voyez vraiment l'évolution des jeunes. Ça correspond à une quinzaine, max 20, samedi matin ou mercredi après-midi. Vraiment, vous ne le sentirez même pas dans votre expérience étudiante. On a eu des étudiants et des étudiantes qui avaient 3-4 engagements associatifs à côté du programme de tutorat. Donc vraiment, c'est quelque chose que vous n'allez pas ressentir. Et pour autant, Maxime en a parlé, Anaïs en a parlé, qui va avoir vraiment un impact sur votre trajectoire parce que vous allez développer des compétences, vous allez créer beaucoup de liens avec d'autres étudiants de l'ESSEC, d'autres programmes, des jeunes, des entreprises et des pouvoirs publics. Et nous, bien sûr. Voilà.
On compte sur vous, du coup.